au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Mathieu?
Que quatre chats dans la gorge vaut mieux qu'un chien dans le poulailler.
Oui, oui, oh, il s'en est sorti. Bravo, Mathieu. Bien, mais c'est ça, c'est un beau lundi 16 mars. On est à quatre jours du printemps. Je vous dis tout de suite, là, la météo, ça va être en dents de scie toute la semaine. Là, aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée pas mal partout au Québec, sauf tempête hivernale en Abitibi. Tempête hivernale, 15 à 20, 30 cm de neige. En Ontario aussi, il fait beau, sauf dans le nord aussi, c'est plus froid. Et dans les provinces atlantiques, ben, c'est de la brume, de la pluie, mais on y arrive. Tranquillement, pas vite. Un pas en avant, deux en arrière, trois en avant. On va finir par arriver au printemps, puis on va finir par faire beau. Allô, Danielle Rioux, qui est notre collaboratrice aujourd'hui, qui est toute seule parce que Louis a pris congé. Allô, Danielle, ça va?
Oui, bien, merci. Ben justement, on comparait la météo d'une place à une autre. Ce matin, mon sujet, c'est justement, on se compare, nous, comme individus. Alors, on dit « je me compare, donc je suis ouais. ». C'est le sujet de ma chronique aujourd'hui.
Moi, j'avais toujours le dicton qui disait que quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console.
Ah, ben, allez voir. Ben, c'est un article qui va vous... je trouve que c'est un article qui est intéressant parce qu'on est tous... C'est humain, tout d'abord.
Ben oui.
C'est naturel de se comparer. Hein. Ben. Et puis, par contre, ça peut devenir toxique dans une société comme celle dans laquelle nous vivons, avec la surenchère des likes hein, sur les réseaux sociaux. Et il y a une nouvelle concurrence qui entre... en ligne, c'est l'intelligence artificielle. Alors, écoutez, avec cet article, on va pouvoir mesurer et puis se reprendre en main et apprendre à faire bon usage de la comparaison. Parce que c'est la comparaison, c'est plus fort que nous. Puis, on se comparait déjà quand on était enfant hein, à là, son grand frère.
Mais on se compare à des personnes ou des qui sont des modèles inaccessibles. Je vais aller un petit peu rapide parce que je dois annoncer le reste de l'émission. Pendant l'émission très chargée, c'est peut-être pour ça qu'il y a quatre fois bonjour ce matin. J'ai beaucoup d'entrevues aujourd'hui, outre Daniel qui va nous parler un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, je reçois aussi Sébastien Pilote, cinéaste et cofondateur du festival Regard, festival donc international de court-métrage au Saguenay. On reçoit aussi Martin Bureau, qui est réalisateur du film Plus rien n'est égal par ailleurs, qui vient de l'ONF. L'ONF, hein, qui vient de remporter par le biais de ses artisans un Oscar hein, à la cérémonie d'hier soir. On reçoit aussi Lise Bissonnette, qui est la créatrice qui a mis sur place la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ça fait 20 ans que ça existe. Alors, il y a un livre qui a été publié, puis elle fait un bilan qui n'est pas toujours élogieux. Ben, c'est comme ça. On va parler des Jeux paralympiques avec Dominique Tremblay. Et je termine avec une entrevue avec Fabienne Collat qui nous parle du Festival Film Black qui se déroule à Ottawa. Rapidement, pour vous dire que nous n'avons pas été en onde mercredi et jeudi de la semaine dernière, vous savez que Canalem embauche beaucoup de personnes qui sont parfois à mobilité réduite. Puis quand on annonce du mauvais temps ou quand c'est glacé, on est bienveillant puis on fait attention à notre monde. Alors, c'était pour ça qu'on n'était pas là. Mais je vous le promets, Hélène sera de retour demain. Et nous, on s'en va en musique.
Va falloir que tu me tiennes fort. Des fois je perds le nord. Mais fais-moi confiance, je vais follow le tempo, peu importe la cadence. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Le temps qu'on se dépose. Puis si jamais je me sauve, rappelle-toi que mon cœur est un Rolling Stone. Je vais revenir te voir. Dis-toi que tôt ou tard, nos deux cœurs vont vouloir se revoir. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Hold me close. Je peux durer une chose.
tête sur les tiennes. Je sais pas danser, on m'a jamais appris. Hold me close, comme on s'était
Hold Me Close, une chanson de Roxane Bruno.
Et puis, ben, on va peut-être se regarder de près. Tiens, tant qu'à faire, on se tient de près, puis on se regarde de près avec Daniel Rioux, parce que, ben, justement, hein, on se compare, puis on est envieux, puis ben voilà.
Ben oui, c'est pas drôle ça, parce que, ben c'est pas drôle, puis c'est, maintenant c'est humain, puis c'est naturel aussi, parce qu'on a commencé, comme je mentionnais plus tôt, on a commencé très jeune à se comparer. Tiens, on se comparait à son grand frère, à sa sœur, ou encore à des amis à la garderie. Ensuite, à l'école, on en parle, hein, on se compare, les petits voisins. Puis c'est à l'adolescence, dans une quête éperdue d'identité et de conformité, que ça va mettre le feu aux poudres, justement, ce type, cette comparaison aux autres. Et il y a aussi de rares exceptions près jusqu'à l'âge adulte, que ça calme pas la donne. Hein, même adulte, on se compare. La comparaison, c'est propre à l'homme, donc c'est pas une découverte là. C'est éminemment social, qui a besoin de s'évaluer. Hein, l'homme a besoin de s'évaluer, de se situer, de se définir par rapport aux autres. Mais il y a un prix à payer. Mais à quel prix? Mmh. Alors, comme je mentionnais, la comparaison, elle est naturelle depuis les premiers temps de la vie. Pourquoi se comparer? Ben, c'est un processus d'identification qui est nécessaire à la construction de soi. Et vous mentionnez, on parlait hors d'onde, qui peut se transformer justement en jalousie et pire encore, l'envie, en envie, le niveau qui est supérieur à la jalousie. C'est ce qu'on mentionne dans l'article. Par exemple, pourquoi est-ce que ma sœur va à Paris alors que moi, je vais en Gaspésie? Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi ma collègue paraît-elle 10 ans de moins que mon âge et pas moi? Vous avez plein de sujets là, de comparaison. Vous pouvez vous comparer au niveau du revenu, de l'image, des capacités intellectuelles, de la culture, du mode de vie, mais aussi à l'intérieur du couple, de la famille, des amis, etc. Tout ce que l'on est, tout ce que l'on a est susceptible d'être comparé à ce que sont et qu'ont les autres. Bien, c'est, voyez-vous, le son et le on, hein?
Ouais.
Bien souvent, on le reconnaît, pour mieux se prouver que ces autres sont mieux lotis que soi, qu'ils sont plus beaux, qu'ils sont plus forts, qu'ils sont plus performants et que décidément, la vie est bien injuste.
C'est un peu cruel tout ça, parce que dans les réseaux sociaux présentement, parce qu'on va y arriver, mais tu sais, les gens se comparent à des icônes de beauté qui ne sont pas nécessairement naturelles. On va y arriver, oui, je suis certain.
Ben, justement, puis peut-être qu'ils payent le prix, puis qu'en tout cas, ils sont peut-être pas plus heureux que ça, finalement. Hein?
Ouais.
Puis la comparaison ne peut qu'engendrer, je trouve ça beau, des passions tristes. C'est ce que déplorait déjà Spinoza. Et il disait, il ajoutait, l'aveugle, tant qu'il ne mesure pas L'aveugle, tant qu'il ne se mesure pas à ceux qui voient, ne se sent nullement imparfait. Il rajoutait ça, le philosophe Spinoza.
Okay.
Est-ce qu'on est tous rivaux? Sauf que sur des personnalités bien ancrées, le même mécanisme peut permettre d'affirmer sa singularité, hein, il y a des gens, de mesurer sa chance. Et ça dépend en réalité de nos prédispositions de départ à l'auto-dévalorisation, mais également des autres auxquels on choisit de se comparer. Il y a des gens qui manquent de confiance, hein, comment qu'on se valorise. Des semblables, il y a des pairs, des êtres un peu comme nous, mais meilleurs que nous ou qui ont plus que nous. Donc ça, c'est la comparaison ascendante, c'est-à-dire que des gens qui sont plus beau, plus fort, plus riche que nous. Il y a aussi, on parle aussi de comparaison descendante qui, elle, c'est qu'on choisit de se mesurer à des personnes moins belles, moins riches, moins chanceuses dans la vie. Ça, c'est la comparaison descendante pour justement regonfler un peu son narcissisme qui est défaillant.
Ouais.
Hein, voyez-vous, hein? Donc, il y en a qui vous regardent toujours de haut, mais bon. Quand je me regarde, justement, vous le mentionniez hors d'onde, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. C'est ce qu'aurait dit Talleyrand. C'est dans tous les cas, la force est de constater que la référence au grand autre, Dieu, la morale ou des principes philosophiques, a cédé la place à tous les petits autres que sont nos contemporains, autant d'alter ego, aussi démunis que nous face à une société qui est productive, qui est fondée sur la réussite matérielle et la performance où tout se quantifie, se chiffre et s'évalue. Alors, on l'a ici dans cet article-là. Moi, je pense à ça. Là, on se compare. C'est un article d'ici, mais dans d'autres pays, dans certaines cultures, c'est peut-être pas la même chose. Ça pourrait pas se rapporter, mais enfin. Donc, à qui aura la vie la plus belle? Hein, le plus bel appartement, les plus beaux enfants. Et justement, c'est renchéri à travers la mécanique des likes. Les fameux likes sociaux, des réseaux sociaux. Nous sommes tous notés et tout se mesure et tout se compare. Et même en tant que psy, le psy qui nous parle, qui écrit Michael Stora, il dit même en tant que psy, on nous décerne des étoiles. Comme pour les restaurateurs, même les médecins. Hein, vous regardez, hein, on consulte des sites, on peut avoir des étoiles, même les livres ont des étoiles sur Babelio, je pense à ça tout à coup. Alors, on est à l'ère de la gamification. C'est quoi ça, la gamification? J'ai cherché. On pourrait dire aussi la ludification. C'est-à-dire, ça veut dire intégration de mécanismes de jeu, comme des émojis, des points, des badges et des likes. C'est un peu un jeu qu'on fait, mais c'est un jeu qui a un certain prix en quelque part. Hein. Le venin des réseaux sociaux, justement, c'est une spécificité de notre époque et c'est que sur les réseaux sociaux, on cherche de la comparaison sociale avec quelque chose, avec quelqu'un qui soit n'existe pas ou qui est complètement idéalisé, résume Mathieu Cassotti, qui est professeur de psychologie. Les protagonistes sont toujours jeunes, hein? Ils sont beaux en général, miraculeusement déridés, ils sont défatigués, filtrés, retouchés, conformés aux normes esthétiques et aux valeurs en vigueur. Alors la consommation, la richesse, la beauté, la réussite, hein. On peut regarder le tapis rouge hier des Oscars, hein, puis on dirait, oh mon Dieu, qu'il est bien habillé, puis c'est donc beau. Mais qu'on se compare à des gens comme ça, des fois, malheureusement. Si l'on se compare systématiquement à l'image idéalisée de ce que sont les autres, l'effet sur l'estime de soi peut être catastrophique, poursuit le chercheur, et sans compter le retour des likes sur ses propres posts, parce qu'on attend des autres aussi un feedback, y compris sur de l'intime, et ce retour forcément impacte notre questionnement. C'est-à-dire, quand on envoie des messages, on dit, mon Dieu, personne qui m'a répondu. Ça doit être ordinaire, ce que j'ai posté. Bon, ben voyez-vous, ça joue sur votre estime, sur votre valeur à vous. Puis, dans le fond, c'est artificiel. Ouais. Nos fameux amis Facebook sont finalement autant de dangers pour notre stabilité émotionnelle et de menaces pour notre bonheur individuel. Le plus pernicieux, on conventionne, mais Michael Stora, lui, c'est le rôle des influenceurs qui nous piègent dans une sorte d'effet miroir. Ils nous tutoient, ils se filment dans leur chambre, on peut les commenter, les liker. Ils nous donnent aussi l'illusion de proximité, on est un peu comme eux. Et contrairement à nos anciens modèles, acteurs, chanteurs, stars, avec qui se nouait une relation plus verticale, on cherchait à marcher comme une telle, à tenir sa cigarette comme un tel, mais on les regardait de loin. Donc ce rapport intime-là avec les gens à travers les réseaux sociaux change un peu plus la donne. Les influenceurs sont eux-mêmes piégés dans la course à l'idéalisation. Chacun de leurs followers cherche à correspondre à l'image en faux self qu'ils leur suggèrent. Et finalement, on aboutit à un monde de clones qui se comparent entre eux et développent des sentiments de jalousie puis d'envie qui peuvent provoquer de la colère, voire de la haine, notamment en ligne. Mais au royaume du faux et de l'artifice, on redoute une chose, et c'est à venir, c'est la concurrence déloyale de l'intelligence artificielle, et c'est face à ces performances vertigineuses que risquent d'être évaluées dès demain nos propres compétences. Hein? Ouais. Combat perdu d'avance, à moins que dans un sursaut de sens commun, nous réussissions enfin, non pas à éliminer la comparaison de nos vies, missions, qui semble impossible, mais à en faire un usage lucide, sain et mesuré. Cesser notamment de l'utiliser comme une arme d'autodestruction et de compétition toxique, mais comme un précieux outil pro-social. Nier l'importance de la comparaison sociale est en soi un mécanisme de défense. La solution consiste plutôt à apprendre à vivre en prenant suffisamment conscience de ces mécanismes pour réguler son impact émotionnel et trouver d'autres sources d'estime et de construction de soi que seulement le regard des autres, ou alors choisir des regards bienveillants. Hein? Oui. On pourrait surtout apprendre à se comparer à la seule personne intéressante, soi-même.
Ah, mon Dieu, se choisir, comme dirait l'autre.
C'est se un choisir, peu... comprendre les mécanismes. Alors maintenant, il faut comprendre les mécanismes, maintenant que j'ai lu cet article, comprendre les mécanismes qui conduisent à être jaloux, envieux, réfléchir à la question de l'estime de soi, de la confiance en soi dans les autres. Ça pourrait nous permettre à la fin d'être heureux de la réussite d'un autre que soi. Et ça, et l'estime, et renchérir, être plus s'estimer davantage. Donc, c'était la raison de cet article, parce qu'on est tous touchés par ce « je me compare, donc je suis ».
Tout à fait. On va terminer tout de suite ici, parce qu'on a une grosse émission chargée, mais merci beaucoup d'avoir été là ce matin, puis merci pour ce partage très intéressant. À la semaine prochaine, Daniel.
À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.
Le Festival international du court-métrage au Saguenay, le festival qui s'appelle Regards, célèbre cette année sa 30e édition qui aura lieu du 18 au 22 mars, donc à partir de d'après-demain. 30 ans de résistance, de découverte et de rayonnement pour le format court. Le Festival Regards est l'un des rares événements en Amérique du Nord dont les principaux prix en compétition officielle permettent aux films lauréats d'être admissibles au processus de sélection des Oscars aux États-Unis. Ah, c'est pas rien. Alors, pour en parler, on reçoit Sébastien Pilote, qui est cinéaste de renom et surtout un des piliers fondateurs d'une véritable institution culturelle au Saguenay. Sébastien, bienvenue à l'émission.
Bon matin, merci.
Merci d'être là. Alors, si on replonge en 1995, à quoi ressemblait l'étincelle qui a mené à la création de ce festival Regards?
En 95, je ne sais pas, mais on a commencé en 96.
96. Ah, je pensais que vous aviez planifié un an d'avance, excusez-moi. Là, je...
Non, en fait, c'est ça. L'édition 1996-97, c'est vraiment venu à l'initiative d'Éric Bachand, qui est vraiment le fondateur du festival. Et en 97, moi, je me suis joint à Éric et avec Isabelle Rioux aussi, qui est un professeur du secondaire. Et c'est là que, en fait, on a travaillé pour l'édition de 1998, qui a donné l'espèce de forme, la forme actuelle là, qu'on connaît du festival, c'est-à-dire dans les deux grandes villes, là, Jonquière et Chicoutimi. Oui. À l'époque, c'était deux villes séparées. On a fusionné. C'est grâce au festival que les deux villes ont fusionné. Mais et dans les grandes salles qu'on connaît aujourd'hui, à peu près, au départ, c'était sur 4 jours. Le festival s'appelait Regard sur la relève du cinéma québécois. Donc nous, moi, j'avais 22 ans, je sortais de l'école et je voulais faire des films, mais je savais pas comment trop m'y prendre. Fait que je me suis mis à regarder ceux des autres et j'ai dit pourquoi pas les montrer. Alors, on s'est mis à montrer des films de cinéastes de notre génération. Fait qu'on a été les premiers à montrer les premiers films de Denis Villeneuve, Jean-Marc Zallé, Robin Aubert, Chloé Lerich, Archambault, tous ces cinéastes-là sont passés ici au festival, Francis Leclerc, toute la gang de Québec, Trogi. Fait que c'est tout du monde qui ont grandi avec le festival, qui commençait, qui faisait des petits films souvent avec très peu de moyens. Puis bon, le festival grossit. Le festival vraiment est parti avec, je pense que c'est un programme d'assurance chômage hein, qu'Éric avait, puis je pense 500 $ de commandite. Puis aujourd'hui, c'est un événement qui c'est plus proche de 1,5 million de budget par année. Qui fait travailler beaucoup de jeunes dans la région, dans des travailleurs culturels, qui implique beaucoup de bénévoles. Moi, Eric, on était allé au festival en Abitibi à l'époque, puis on était jaloux, on rêvait d'avoir autant de bénévoles que le festival d'Abitibi. Parce qu'on savait qu'en Abitibi, il y avait une réputation, là, les bénévoles, il y a des gens qui prenaient congé pour de leur travail pour être bénévoles à chaque année et tout ça. Puis aujourd'hui, ben, le festival, c'est ça, là, c'est presque une centaine de bénévoles, c'est beaucoup de travailleurs. Puis, et c'est 35 000 spectateurs en 5 jours au Saguenay pour voir des courts-métrages que les gens souvent n'ont jamais entendu parler. Fait que c'est vraiment l'événementiel là, qui attire les gens.
J'imagine qu'on vient de l'extérieur aussi pour venir voir les films que vous présentez.
Oui, au début, j'y croyais pas, là, qu'on allait un jour attirer des touristes. Je savais qu'on allait attirer des cinéastes, des gens du milieu, en région éloignée. Mais aujourd'hui, effectivement, beaucoup de touristes, il y a des gens que, à chaque année, je rencontre des gens qui me disent que depuis plusieurs années, prennent congé, pendant la semaine pour pouvoir venir au Saguenay puis voir du court-métrage. Fait qu'ils viennent exclusivement pour le festival parce qu'on n'est pas une période touristique très achalandée, là, au mois de mars.
Ouais.
Alors, on pourrait facilement dire qu'on a 450 invités qui viennent d'un peu partout dans le monde et beaucoup de Montréal, du milieu du cinéma essentiellement, des acteurs, etc., mais aussi beaucoup de festivaliers, des jeunes, des étudiants en cinéma, de Concordia, de l'UQAM, et beaucoup de seulement des spectateurs aussi. C'est que la ville, c'est beau parce que moi, je trouve que ma semaine préférée au Saguenay, là, pour voir les fêtes, pour les films, mais pour voir aussi tous les touristes et les gens qui se promènent, qui vont voir les films.
Est-ce qu'on aurait cru au départ que ce festival deviendrait aussi gros?
Moi, mon rêve, c'était vraiment de remplir les grandes salles. On a deux grandes salles de 800-900 places. Et mon rêve, c'était de remplir une de ces salles-là un jour, qu'on est plein. Puis aujourd'hui, ces salles-là roulent en simultané, en même temps aussi que d'autres salles de 300, 400 places, et on refuse des centaines de spectateurs. Fait que c'est énorme. J'aurais pas rêvé autant.
Cette année, vous proposez 182 films de 55 pays. Alors, comment on fait pour maintenir l'équilibre entre les grands noms, mais aussi garder de la place pour la relève? Parce qu'au départ aussi, vous vouliez donner une chance aux nouveaux.
Mm-hmm. Le festival, c'est vraiment un showcase. Là. Mm-hmm. Je ne vais pas parler beaucoup de la programmation parce que je vais la découvrir en même temps que tout le monde. Je suis simple administrateur, donc je m'occupe au départ, je m'occupais de la programmation du festival, mais aujourd'hui, je vois les films en même temps que tout le monde. Mais ce que je sais, c'est que le festival, c'est vraiment la ligne éditoriale, c'est vraiment un showcase. Ça veut dire qu'on montre des films qui ont roulé parfois pendant plus d'un an. Comme vous voyez, les gens vont avoir la chance de voir le film qui a été primé hier à la soirée des Oscars.
Oui.
La femme qui pleurait des perles va être présentée samedi en après-midi à Chicoutimi. Donc, c'est une chance unique de le voir sur très grand écran. C'est magnifique. Ce film-là roule depuis un an pratiquement. Mais aussi, on présente aussi des primeurs. Il y a des films de cinéastes parfois établis. Parfois, il y a des gens qui nous étonnent, comme par exemple le comédien Rémi-Pierre Paquin qui vient depuis 30 ans au festival pratiquement et qui a décidé l'année passée, justement, lors de l'événement, il en discutait avec des amis, il parlait d'un projet de film qu'il avait dans sa tête. Et puis, avec le directeur photo André Turpin, ils se sont lancés le défi. Ils ont fait le film, donc ils m'ont présenté le film. C'est le premier film de Rémi-Pierre Paquin comme réalisateur.
Ah oui.
Alors, c'est un mélange, évidemment, de films qui ont été primés ailleurs, qui ont été présentés, par exemple, au très gros, important festival de Clermont-Ferrand en France, qui est le plus important festival de court-métrage au monde. Des films qui viennent de Cannes, de Berlin, de Venise, mais aussi beaucoup de films québécois, canadiens, des films autochtones, des Premières Nations. On a un programme qui présente des œuvres originales des Premières Nations. Des films pour les familles. On a décidé pour le 30e anniversaire de rendre gratuit. Toutes les projections familiales et pour les enfants sont gratuites. Ouais. Donc, on est un peu à contre-courant, là, même si on sait que ça ne va pas très bien pour les sorties scolaires et tout ça. On a dit, bon, on va faire notre part. Alors, voilà.
C'est un beau geste. Vous avez cette année inauguré, je sais que vous n'êtes pas tout à fait dans tout ce qui est de programmation, mais j'imagine que vous pouvez me parler du quartier général au hangar de la zone portuaire. J'ai l'impression que c'est une autre façon de faire des rencontres ou de la médiation culturelle.
Mm-hmm. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que le cabaret du festival est très, très couru. Là. À chaque année, on a des parties tous les soirs après les projections. On partait avec 1200, 1300 personnes, avec des jeunes. Parce que la moyenne d'âge au festival est souvent en bas de 30 ans. Là. Fait que on est chanceux d'avoir un public aussi jeune. Donc, les fêtes sont très, c'est très, très festif. Et on a décidé de, donc de, d'avoir ce quartier général-là où est-ce qu'on va faire les fêtes, mais aussi toutes les séances, comme par exemple le tête-à-tête avec le producteur Roger Fraquier. Donc, tout ça est réuni au Vieux-Port, sur le bord du Saguenay. Et ça nous permet d'être proche du centre-ville et tout ça, parce qu'on avait un peu perdu le contact avec le centre-ville. Depuis la pandémie, on avait dû s'éloigner à cause de l'offre au niveau des hôtels. Mais pour nous, c'est important. Un festival de films, c'est aussi c'est une activité communautaire. C'est important d'être présent pour nos commerçants, les restaurants, les libraires. On veut que les gens puissent découvrir la ville, pas seulement les grands boulevards. Alors, c'est pour ça qu'on s'amène au Vieux-Port de Chicoutimi. Ouais.
En tant que cinéaste vous-même, comment avez-vous vu la perception du court-métrage évoluer au Québec depuis ces trois décennies là, que vous êtes impliqué dans ce festival?
Le court-métrage, il y a 30 ans, ça n'allait pas très, très bien. Évidemment, le court-métrage, en fait, il était très peu montré. Et est arrivé l'avènement du numérique, une sorte de démocratisation du cinéma avec les petites caméras numériques qui est arrivée tout de suite après le début du festival. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le court-métrage, les 20 premières années de l'histoire du cinéma, ce n'était que du court-métrage. Les films des Frères Lumière, etc. Le long-métrage est arrivé à peu près autour de 1916. Puis ça a pris quand même plusieurs années avant que les films en salle, que le marché tourne autour du long métrage. C'est qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais encore dans les années 30, il y a beaucoup de cinéastes très établis qui faisaient du court métrage et qui ne se posaient pas la question est-ce que c'est moins bien qu'un long métrage. Pour moi, le court métrage, c'est un peu comme quand tu aimes la littérature, tu aimes autant les romans que les nouvelles ou que les essais littéraires ou la poésie. Un poème de Basho, de trois lignes, le poète japonais, est aussi valable, aussi profond, aussi fort qu'un poème de six pages de Victor Hugo. C'est un peu pareil avec le cinéma, je pense. Fait que c'est vraiment une question de durée. C'est pas, évidemment, il y a beaucoup de jeunes cinéastes qui vont être présents dans le court-métrage parce que parfois, c'est parce que ça coûte moins cher à faire. C'est qu'on peut-être dans quelques jours de tournage finir un film. C'est plus facile de le faire hors des institutions, hors du milieu commercial, je dirais. Mais le court-métrage, il y a 30 ans, ça n'allait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Évidemment, l'avènement avec l'Internet, ça l'a permis.
Ça a changé les choses, effectivement. On va s'arrêter là-dessus, Sébastien Pilote, cinéaste, et qui est aussi un des cofondateurs de ce festival, Regard, Festival international du court-métrage, qui se déroule au Saguenay du 18 au 22 mars. Puis, bon, nous, on a des auditeurs là-bas, fait que c'est sûr que allez voir ça. Puis ceux qui sont peut-être pas dans la région, bien, un petit tour d'auto ou un tour de bus, ça peut être le fun. Merci beaucoup encore, Sébastien.
Bien à vous.
Merci. Après la pause, nous allons parler du film de l'artiste pluridisciplinaire Martin Bruneau, Plus rien n'est égal, qui est présenté au FIFA, un autre festival de cinéma. Et on parle aussi à Lise Bissonnette de la Grande Bibliothèque, donc Bibliothèque et Archives nationales du Québec. À tout de suite.
Vous pouvez vous écouter au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je suis ordinaire, j'ai rien de fou, mais quand tu me regardes, tout d'un coup je deviens génial. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire et un peu fou, le plus drôle de la terre. Je me sens plus cool quand tu me regardes. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire. Avec toi je me sens extraordinaire. Tu me fais sentir plus drôle, plus grand, plus moi-même. Comme si j'avais tout l'or du monde dans la tête. C'est toi qui fais que j'ai toujours confiance en moi-même. Comme si j'avais enfin trouvé ce qui manquait. Je suis ordinaire, j'ai rien de fou, mais quand tu me regardes, tout d'un coup je deviens génial. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire. Avec toi je me sens extraordinaire. Tu me fais sentir plus drôle, plus grand, plus moi-même. Extraordinaire. Quand tu dis que je suis important, j'aimerais te dire que je comprends.
J'aimerais te dire que je suis différent, mais en vérité ce que je ressens, c'est que j'ai beau être un peu mieux, avoir le sourire que je veux, si je te prête mes yeux, tu verrais pas le merveilleux. J'ai rien de fou, oh non, j'suis pas le plus cool non plus, mais j'ai ce pouvoir de te faire sentir, te faire sentir extraordinaire. T'es tellement belle et tu le sais à peine, je me sens plus cool quand tu me regardes. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire. Avec toi je me sens extraordinaire. Tu me fais sentir plus drôle, plus grand, plus moi même extraordinaire.
Extraordinaire, une chanson de Fred.
Et on continue de parler de cinéma. Tiens, l'émission a une thématique cinéma aujourd'hui. Le Festival international du film sur l'art, le FIFA, est en cours à Montréal. Et dans le cadre de ce festival, ben, on reçoit Martin Bruno, artiste multidisciplinaire, dont le dernier long-métrage, Plus rien n'est égal par ailleurs, est présenté en sélection officielle au FIFA. Produite par l'Office national du film du Canada, qui est très heureuse d'annoncer qu'elle a gagné un grand prix, on l'a dit déjà, aux Oscars. Cette œuvre hybride entre le documentaire et l'art vidéo nous plonge dans une réflexion viscérale sur les dérives du capitalisme. C'est porté aussi par la parole du philosophe Alain Deneau. Martin, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Comment on décrirait votre film?
Je pense que c'est avant tout une charge visuelle et sonore. Donc, c'est vraiment comme axé sur l'image. Puis l'image qui raconte, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, les dérives du capitalisme, mais aussi les comportements qui sont reliés à ça, en fait, c'est-à-dire des comportements d'exultation qui définissent peut-être notre posture par rapport à l'état du monde.
Oui, je voyais ça, à un moment donné, il y avait une séquence où on donne la communion, je pense, à des motards qui passent. OK, ça, c'est spécial.
Oui, c'est une grande tradition au Québec, hein, la bénédiction des motards. Donc,
oui, on descend le bénissait, c'est ça, excuse-moi.
Donc,
oui.
qu'on a juxtaposé à la destruction d'une église. Donc, le film joue beaucoup comme ça, par association, juxtaposition de sujets qui viennent s'annuler parfois, contradictoires, parfois générer d'autres sens aussi par association.
J'ai l'impression que votre regard de peintre a un peu joué là-dedans.
Oui, parce que je pense que mon cinéma, c'est mes tableaux en mouvement, dans le fond, parce que ma base disciplinaire, c'est vraiment effectivement la peinture. Et puis, tout ce film-là est envisagé comme une suite de tableaux, finalement. C'est tous des tableaux qui se suivent un à l'autre, et puis qui créent un récit, mais qui n'est pas un récit linéaire, nécessairement. On ne raconte pas quelque chose de précis, on raconte un état plus qu'une histoire.
J'ai l'impression qu'on raconte un état de choses et puis on le fait ressentir aux gens.
Exactement, c'est ça le but. C'est pour ça que je dis que ce que je souhaite d'abord et avant tout, c'est que le film soit une charge visuelle et sonore, puis que ces émotions-là qui sont reçues nous permettent d'entrer dans le sujet, dans la réflexion.
Là, il y a quand même la présence et la parole sobre. C'est vraiment j'ai l'impression comme des confessions où il nous parle, comme on parle à quelqu'un qui prend un café avec soi. C'est Alain Deneau. C'est quoi sa présence dans le film? Pourquoi il est là?
Ben, Alain, c'est quelqu'un qui vient comme catapulter et mettre des mots sur les images, finalement. Et puis, comment on a agi? J'ai pas agi en interviewant. C'était pas une entrevue avec Alain dans le film. C'était vraiment comme Alain, il était impliqué tôt dans le processus, mais tard en même temps. C'est-à-dire que tôt, dans le sens qu'on avait, beaucoup de discussions, on apprenait à se connaître aussi au fil des années, parce qu'elle a duré quand même quelques années. Puis à un certain moment donné, quand le montage a été avancé, c'est qu'on a donné le montage à Alain, puis on a dit à Alain, réagis à ça. Puis le tournage qu'on a fait avec Alain, c'était comme à l'instar de la musique qu'on a fait. On a commencé le film par faire des sessions musicales dans les studios de l'ONF. Mm-hmm. On a fait la musique du film avant le film. Bien, c'était un session jam de jazz, mais on a fait un peu là, un jam de philosophie avec Alain, finalement. C'est-à-dire qu'on a filmé Alain, puis moi, je ne savais pas exactement ce qu'il allait me dire, me doutant bien dans quelle thématique on allait aller, mais c'était vraiment sa réaction créative au film.
Est-ce qu'on pourrait parler d'une improvisation philosophique, quelque chose du genre?
Je pense qu'il maîtrise, Alain maîtrise sa matière, mais oui, c'était de cet ordre-là, effectivement.
Votre fils, Émile Bureau, a collaboré à la direction photo et au montage. Comment ça s'est passé?
C'est un cadeau hein, pour père. Là. Ça, c'est sûr qu'Émile puis moi, Émile, depuis qu'il est tout petit, qu'il travaille avec moi, puis maintenant, il est rendu un adulte, puis là, on est comme... J'aime bien dire qu'Émile puis moi, on est Bluetooth, là. On a une complicité, une grande complicité. Puis je suis vraiment fier d'avoir fait ça. Puis Émile, il basta.
Est-ce qu'il y a un petit peu de conflit de génération parfois dans la façon de voir les choses? Est-ce que ça peut contribuer à... Peut-être des fois, le conflit contribue à faire améliorer les choses.
Ben, c'est des fois, comme moi, comme ancien directeur photo, des fois, j'ai comme des idées, puis là, il me dit, voyons pas, ça, c'est old school. Là,
ça fait mal.
Mais
là,
ça reste entre nous.
Ça doit faire mal un petit peu quand même. Mais qu'est-ce que sa présence, vous pensez, a apporté à votre film en termes de complémentarité. Bon, je perds mes mots aujourd'hui, oui.
Ben, c'est comme je dis, c'est Émile et moi, on se comprend beaucoup, donc ouais. On n'a pas énormément besoin de discuter, on s'assure vraiment qu'on est... C'est rapide dans les processus de tournage, par exemple, on arrivait sur un lieu et on savait pas mal où est-ce qu'on allait sans trop s'en parler. Et puis, ce qu'il apporte, ben, il apporte son talent brut de la mi-vingtaine. Puis, c'est quelqu'un de très investi, très technique, mais à la fois très... conceptuel aussi, donc pour moi c'est vraiment quelqu'un qui c'est mon allié numéro un qui me permet d'aller vraiment d'avancer avec efficacité et résultat. J'ai que de bons mots à dire sur le travail d'Émile, puis comme on travaille proche ensemble, bien, on avait beaucoup de temps à faire des essais-erreurs et puis à trouver la bonne idée finalement.
Je reviens sur le processus de création parce vous avez expliqué qu'au départ, on a fait des sessions de musique, de jam de musique. Et le film s'est construit un peu autour de ça. J'ai l'impression que vous aviez une idée de ce que vous voulez dire, mais il n'y avait pas un scénario précis au départ.
Exactement.
C'est pas être facile à vendre, ça, comme idée, hein?
Non, effectivement. D'ailleurs, je suis très reconnaissant envers la production à l'ONF de m'avoir permis de travailler à ma façon. Beaucoup, je leur ai beaucoup parlé que je voulais travailler comme dans ma logique d'atelier, en fait, mm-hmm. C'est-à-dire par tâtons, SRA. Puis le film, effectivement, il n'y avait pas de scénario linéaire, mais il y avait comme une accumulation de sujets qui étaient convoités sur la notion de débordement. Donc, tout ce qui déborde dans le film, les sujets, comme par exemple, on parlait de... tout à l'heure d'une bénédiction de motard, d'une destruction d'église, mais il y a aussi un rodéo, aussi le casino, il y a aussi les derbys de démolition automobile, il y a toutes sortes de manifestations, les débordements écologiques, la surconsommation de biens, les déchets qu'on dispose de manière...
Et Gaza.
Et Gaza qui revient aussi, parce qu'il y a des dimensions géopolitiques dans le film qui sont nommées. Donc, au départ, c'était vraiment plus d'accumuler des sujets, puis c'était un film qui s'est écrit au montage. Donc, oui. C'est vraiment un film qui s'est écrit par tableau. Les scènes ont été montées, les juxtapositions, les associations de sujets ont été montées à part. Puis à un moment donné, on avait comme 10-15 tableaux, qu'on peut dire. Puis on a commencé à jouer, à faire du Tetris avec ça, à commencer par ça.
J'aime l'image du Tetris, ça, j'aime beaucoup.
On a essayé d'avancer là-dedans. Puis à un moment donné, le récit s'est construit de lui-même. Ouais. Puis c'est-à-dire, c'est de faire confiance à des procédés qui ne sont pas, disons, usuel, nécessairement, dans l'idée de raconter une histoire linéaire. Puis moi, mais ça, je suis très confortable là-dedans parce que c'est mon univers naturel en art visuel, je dirais.
Je reviens sur Gaza. Pourquoi c'est important d'en parler dans ce film?
Moi, j'ai fait un projet précédent qui s'appelle Les murs du désordre, aussi, dont l'ONF est impliqué à une certaine partie, qui portait sur les murs de séparation étatique. Donc, j'ai foulé ces terrains-là sur le mur israélo-palestinien. Je l'ai foulé quelques fois. Puis c'est toujours des terrains géopolitiques qui m'interpellent encore aujourd'hui. Puis pendant qu'on faisait ce film-là, on était en pleine guerre de Gaza. Et puis... moi, il y a une scène qu'on a reprise. On a refait un de mes tableaux, en fait, une scène où est-ce que le conseil de sécurité d'un comité fictif qui se réunit et que les têtes brûlent, finalement, c'était à l'origine un tableau. Puis on a refait ce tableau-là en cinéma, finalement, en plan séquence. Et puis, de ça a émergé l'idée d'intégrer des images satellitaires de la destruction à Gaza pour parler de créer le contraste entre l'attitude des personnages dont les têtes brûlent et la réalité géopolitique.
Je te mène avec ça. Quel a été le rôle de l'ONF dans tout ce processus?
Ben, ça a été de m'accompagner puis de me challenger parce qu'on a travaillé sur 6 ans, en fait, sur ce projet-là. Puis ma productrice, Nathalie Cloutier, a toujours été là pour à la fois me laisser travailler, me donner le go sur des idées folles qui apparaissaient au fur et à mesure, mais aussi pour les challenger, pour faire en sorte qu'on prenne tous les bonnes décisions quant à la suite des choses. Mais il y a eu énormément de liberté de création qui m'a été donnée, comme je pense que ce serait difficile à avoir, mais c'est comme mon troisième projet avec Nathalie. Ouais. Donc je pense que cette confiance-là, qui le temps donne des belles choses aussi, donc ne fait pas juste nous faire flétrir. Donc le temps de travail nous nous a amené une certaine confiance mutuelle, puis je suis très reconnaissant envers la production à ce niveau-là, de m'avoir permis d'agir à ma façon en création cinématographique.
Donc, le film va être présenté, je pense que c'est après-demain, au Festival FIFA. Qu'est-ce que vous attendez que le public retire quand il aura vu le film?
Bien, je pense qu'en termes d'affect, qu'il y ait vraiment comme une charge émotionnelle, puis en termes conceptuels, ben, que les gens puissent partir en ayant en tête une réflexion, notamment sur la question de la décroissance, puis sur l'idée de prendre soin des uns et des autres, de sa communauté et de son territoire, je dirais.
Martin Bureau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ici à l'émission Au quotidien. Je rappelle donc que Plus rien n'est égal par ailleurs est à découvrir au Festival international du film sur l'art, puis je suis certain qu'on va le voir à d'autres occasions.
Certainement, il va en avoir d'autres. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La nuit ne fait que commencer. Je veux jouer. Je veux jouer. J'ai tant de choses à te montrer. Je veux jouer.
La chanson « Je veux jouer » de Alex.
La Grande Bibliothèque a 20 ans. Celle qui a appelé à sa création et qui a été mandatée pour le faire, la journaliste et autrice Lise Bissonnette, vient de publier avec 5 collègues l'essai BANQ, Vision pour une institution phare, c'est aux presses de l'Université de Montréal. 20 ans après la fusion qui a donné naissance à ce géant culturel, nous revenons avec elle sur l'héritage et les turbulences de ce projet que vous, Lise Bissonnette, bienvenue à l'émission, vous avez porté donc ce projet. Ça va bien?
Oui.
Oui, je suis très content de vous avoir à l'émission. Alors, vous avez porté ce projet, Lise Bissonnette, à l'époque de la fusion de la Grande Bibliothèque, la Bibliothèque nationale et la Grande Bibliothèque. On parlait d'un mariage de raisons forcées. Et avec le recul, c'est quoi le sacrifice qui a été le plus difficile à consentir pour faire accepter ce modèle unique au monde, j'allais pour dire, Archives nationales et la Bibliothèque?
Ben, je n'ai pas un souvenir particulièrement douloureux de cette époque-là.
Ouais.
Parce que là, il faut remonter dans le temps. En fait, la Grande Bibliothèque, c'est un édifice, hein, bon, maintenant. Et puis, mais quand on l'a créé, la Grande Bibliothèque du Québec, à l'époque, ça n'était qu'une grande bibliothèque publique qui reprenait à son compte une partie de la Bibliothèque nationale, celle qui était destinée au public. Ça, c'est un peu trop compliqué à expliquer.
Ouais.
Mais parce que, en fait, l'institution dont nous parlons dans cet ouvrage-là, dont je suis particulièrement fière, je dois dire, ces bibliothèques et archives nationales du Québec, ça part de 1910 à nos jours. Et
oui.
C'est une suite de fusions. d'abord de création qui s'est faite presque sans que l'État s'en occupe jusqu'à ce que... À chaque fois, l'État a toujours répondu par une loi, mais ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas les grands acteurs politiques qui ont été à l'origine du développement de cette institution extraordinaire, mais c'est toujours venu de personnes qui y tenaient et de mouvements citoyens et autres. Et finalement, on arrive de fusion en fusion. Et je dois dire que les fusions se font même s'il y a parfois des réactions négatives ou positives, parce que dans certains milieux, on s'inquiète ou pas. Il n'y a pas de crise là-dedans. Il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord. Mais au total, ça s'est produit tout simplement parce que ça devait se produire, puis ensuite qu'on devait le faire, en fait, le gérer et l'organiser, le vouloir. Au total, ça donne une institution qui est assez unique en son genre, parce que c'est un des seuls endroits dans le monde où vous avez à la fois une grande bibliothèque publique, au sens là, des bibliothèques publiques normales, là, donc qui s'adressent au grand public et qui sont des bibliothèques de prêt de toutes sortes. Hein. Aujourd'hui, c'est le numérique autant que l'imprimé. Et aussi une grande bibliothèque nationale qui elle-même est associée à une grande institution que sont les archives nationales. C'est un modèle qui n'est pas fréquent, mais on a vu quand même des mouvements semblables ailleurs dans le monde au cours des dernières années. Que ces rapprochements sont de plus en plus souhaités parce que, évidemment, les frontières entre les disciplines changent. Mais je vous dis que personnellement, moi, j'ai été à l'origine, évidemment, de la création de la Grande Bibliothèque et ensuite j'ai piloté les projets de fusion avec la Bibliothèque nationale et avec les Archives nationales, mais ça s'est passé relativement bien. Ce qui nous amène à publier ce livre aujourd'hui, c'est avec 5 collègues, ce sont des sommités dans leur domaine. Là, moi, je suis la généraliste dans l'endroit, mais bibliothécaires, archivistes, historiens qui ont été liés à la Bibliothèque nationale, aux Archives nationales. Ce qui nous amène là, c'est une grande inquiétude.
Oui. Ben, allons-y justement, parce qu'il y a eu, d'abord depuis dans ces 20 ans-là, mis à part que c'était une fusion qui a quand même eu des succès, on voit les taux de fréquentation, que ce soit en ligne, et puis malgré le fameux épisode de la COVID, il y a eu quand même des bons côtés, mais il y a eu des ratés, si je comprends bien.
C'est-à-dire qu'il y a il y a dans l'ensemble de ce qui se passe dans cette institution actuellement une forme de stagnation. On va revenir un instant, si vous voulez bien, sur la raison ce qui nous a déclenché chez nous l'idée de publier ce livre et justement de documenter un peu le problème que vous évoquez. C'est l'épisode, et je ne reviendrai pas longtemps là-dessus, là, l'épisode de 2024-2025, le moment où Hydro-Québec décide de s'approprier le terrain libre qui appartient à la Grande Bibliothèque et qui était gardé en réserve pour des projets d'avenir, et d'installer là-dessus un monstrueux poste électrique qui aurait non seulement gâché l'avenir de la Grande Bibliothèque, mais aussi tout celui du Quartier Latin comme quartier culturel. Et là, vous avez une mobilisation, on n'a pas vu ça souvent, hein? Bon, oui. Que des gens se mobilisent autour de non seulement de la Grande Bibliothèque, mais tout à coup de BNQ, on s'est rendu compte, tous ceux d'entre nous qui ont participé à cette résistance, à quel point, et puis j'ai pas été la première surprise parce que je m'en doutais, mais tout de même, à quel point les gens ignoraient ce qu'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Faut pas oublier là que c'est le premier, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, c'est le premier établissement culturel du Québec. Ça vaut par la diversité de ses missions, par sa présence sur le territoire, 11 établissements sur le territoire, plusieurs centaines d'employés, en fait près de 800, ben ça fluctue un peu. Les budgets qui dépassent tous les budgets des grands établissements culturels. Et il n'y a rien d'étonnant dans ça, en fait. Hier, je disais que la Bibliothèque nationale de France se définit comme le premier établissement culturel de la France. C'est la réalité. Ouais. Or, comment se fait-il qu'on ne se mobilise pas autant que ça et qu'on ne s'inquiète pas autant de son avenir? Donc, on a voulu, nous, documenter les problèmes. Bien sûr, c'est clairement, il y a une régression dans la fréquentation physique, là, si on peut dire les visites. Et ça, c'est inquiétant. Il y a une augmentation dans la fréquentation numérique. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs, en fait, comme les acquisitions, comme justement les budgets qui sont stagnants, les personnels qui c'est stagnant aussi. Bon, et on voit que l'institution est dans une sorte d'arrêt sur image, si vous voulez. Et le danger, et si vous regardez, si les gens se donnent la peine de regarder ce livre qui est publié aux presses de l'Université de Montréal, auquel nous sommes très reconnaissants d'avoir procédé aussi rapidement, c'est la grande crainte que nous avons, si on veut la résumer, là, très, vous me permettrez d'être simpliste un peu. La grande crainte, c'est que l'institution qui est si extraordinaire, si importante, dont la mission culturelle est première, hein, c'est elle qui doit faire toute la promotion du patrimoine littéraire, historique et même scientifique du Québec, c'est elle qui est la dépositaire de tout ça et qui doit... Bon, c'est qu'elle ne doit pas se résumer à être simplement un dépôt. Moi, j'appelle ça parfois dans un de mes textes une station de service. D'autres disent ben, une plateforme d'accès ou d'autres disent, mais on s'aperçoit en se relisant qu'on a tous la même crainte, en fait, c'est que ça devienne simplement un dépôt, un endroit où on dépose les choses, puis on n'en fait pas la médiation, si vous voulez. On ne révèle pas aux Québécois et au monde, en fait, nos richesses patrimoniales, et on ne le révèle pas non plus auprès de la population qui pourrait y avoir accès. Il n'y a plus d'exposition, il n'y a plus de publication, il n'y a plus aucune exposition, je veux dire, à partir de nos fonds. Il n'y a plus aucune publication qui est interne. Il n'y a plus aucune direction de la recherche scientifique qui doit être en relation avec l'ensemble des chercheurs au Québec qui utilisent toutes ces ressources pour faire des choses dynamiques, si vous voulez, et pas simplement se contenter de dire « Venez chez nous si vous avez besoin d'un papier ou d'un document ou d'un renseignement. » Et c'est ça la grande, grande crainte qui nous habite actuellement, parce que c'est surtout dans les circonstances actuelles, vous en comprenez bien, c'est qu'on est devant des défis énormes. Mmh. En passant, le gouvernement du Québec devrait, c'est une émission des Archives nationales, bien sûr, devrait revoir la loi sur les archives. Savez-vous de quand elle date? De 1983. C'était une loi absolument d'avant-garde en 1983. Elle était maintenant reconnue par le monde. Et maintenant, ben écoutez, en 83, l'Internet n'existait même pas.
Ben oui.
Bon, alors donc, vous voyez la difficulté et l'usage par le public de la partie numérique des services est énorme, mais il y a aussi toutes les archives publiques qui dépendent des archives qui sont gérées aussi par cette loi sur les archives. Or, le ministre a ça sur son bureau depuis des mois et personne ne le pousse à l'action, et pas même les autres partis en passant. Hein, c'est pas seulement le gouvernement, c'est l'ensemble des partis politiques qui n'ont aucun intérêt pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est assez extraordinaire.
Je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est vraiment une institution qui est importante au Québec.
Oui, ça c'est très intéressant. J'ai essayé dans le premier chapitre du livre, que c'est celui que j'ai rédigé, de faire l'histoire politique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Nos collègues bibliothécaires historiens là, qui participent au livre font l'histoire de l'institution elle-même, là, les gens qui l'ont faite et ses grandes étapes et tout ça. Et moi j'ai voulu faire l'histoire politique qui est un peu comment ça s'est passé de 1910 à nos jours. Et une chose qui est remarquable, c'est que c'est jamais le gouvernement qui le gouvernement ou les personnages politiques, si vous voulez, au début c'était des hommes politiques, maintenant c'est l'ensemble des personnes, qui prennent l'initiative. Ça vient toujours d'historiens, de chercheurs, de citoyens, qui se lancent et qui font. Bon, et puis petit à petit, le gouvernement prend acte de ça. On raconte, c'est assez amusant, que quand on a créé la Bibliothèque nationale comme société d'État, si vous voulez, on est au milieu des années 60. En fait, on n'a même pas fait d'inauguration. Vous comprenez? C'est que c'est pas considéré comme étant une mission de l'État et il n'y a personne qui en prend. Qui en prend la charge politique, si vous voulez, qui le défend politiquement. On peut faire une petite exception pour les discours de Denis Baugeois, ils sont assez extraordinaires, mais il a été si peu longtemps ministre de la Culture qu'il n'a pas piloté lui-même des projets. Et vous me direz, je suis sûre, que vous allez me parler de Lucien Bouchard, parce que c'est avec lui, évidemment, qu'on a créé la Grande Bibliothèque, mais souvenez-vous que le projet de Grande Bibliothèque, au départ, qui était son projet, bien sûr, c'était le projet d'une grande bibliothèque publique. Montréal était presque une catastrophe. N'avait pas de bibliothèque publique digne de ce nom en Amérique du Nord. Et puis, le gouvernement a décidé que ce serait le gouvernement du Québec qui doterait Montréal d'une grande bibliothèque qui, elle, devrait servir publique, qui devrait servir la clientèle québécoise. Mais ce n'était pas une bibliothèque nationale, sauf par un aspect simplement. Et c'est par la suite que c'est devenu une bibliothèque nationale. Donc, le caractère bibliothèque et archives nationales n'a jamais été porté par l'État. Ce qui est très différent de ce qui s'est passé dans les pays qui sont nos mères patries, si vous voulez. Prenez la France, prenez la Grande-Bretagne, prenez même les États-Unis, indépendamment de Trump aujourd'hui, qui massacre tout, là. Donc, mais quand on regarde quel a été le rôle des autorités, en France, c'est Richelieu, c'est les rois. La même chose, évidemment, en Grande-Bretagne, ce sont les rois. Aux États-Unis, ce sont les présidents eux-mêmes qui sont des bibliophiles et qui disent « on va créer des... » On n'a rien vu de tel au Québec. Ça a toujours été un peu en parallèle et l'État prend acte des choses et dit « bon, oui, on va faire ça ».
En tout cas, les visionnaires vont dire on pourrait vous écouter pendant des heures de temps tellement c'est intéressant, mais on va devoir s'arrêter ici. Je suis vraiment content d'avoir eu la chance d'entendre vos propos. Je rappelle donc ce livre qui est BANQ Vision pour une institution phare publié auprès de l'Université de Montréal. C'est un plaisir de vous recevoir et de vous lire à nouveau, Mme Bissonnette.
Oui, c'est un plaisir aussi d'en discuter avec vous. Comme vous voyez, c'est un sujet inépuisable.
J'adore. Merci beaucoup, Mme Bissonnette.
Merci. Merci. Merci, au revoir.
On vous revient après la pause.
9h. Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Basta una sola canzone per te dire je t'aime. C'est...
la chanson Sara Perchetti Amo.
Oui, en version française, de Dana. Hein, de Dana, oui. Pourquoi je vous ai fait jouer ça? Parce que j'avais le goût d'entendre un petit peu de musique italienne pour parler des Jeux paralympiques. Alors, on va rejoindre notre chroniqueur en parasport, Dominique Tremblay. Salut, Dominique.
Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien, ça va très bien. Je suis un petit peu déçu. T'es un petit peu déçu.
Oui, oui, oui.
On a perdu hier. Là. On va parler de ça, donc, en para-hockey, défaite Crève-Cœur du Canada.
Alors, on peut dire maintenant que les États-Unis dominent le hockey sous toutes ses coutures, puisque les hommes ont remporté la médaille d'or olympique, les femmes ont remporté la médaille d'or olympique et les para-athlètes ont aussi remporté la médaille d'or contre les Canadiens. Ça s'est terminé 6-2. Mais il faut dire que l'équipe des États-Unis était vraiment favorite pour cette finale-là. C'est leur 5e médaille d'or de suite aux Jeux paralympiques. Ils sont contre les médailles d'or des championnats du monde. Le Canada a remporté seulement 3 médailles d'or depuis 2006. Alors, la dernière fois qu'ils ont gagné la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Donc, les États-Unis sont vraiment une force en para-hockey.
Bon, cela dit, on a quand même fait des belles performances, notamment au curling.
Oui, au curling, là, ça a été tout qu'un match. Les Canadiens sont considérés comme, en anglais, des cardiac Canadiens.
Ouais.
Ils ont tendance à donner des arrêts cardiaques à leurs fans. On se retrouve au dernier bout en finale contre la Chine. La Chine qui a gagné les deux dernières médailles d'or aux Jeux paralympiques. C'est égal 3-3. Il reste moins de 30 secondes là, à lancer la pierre. Le Canada semble avoir une pierre qui compte, avec le pointage égal à 3-3. Donc, cette pierre pourrait compter, mais on n'était pas sûr. Ça prenait un mesurage. On ne voulait pas prendre de chance. Donc, ils sont parlés, argumentés un peu. Et à 2,8 secondes, le skip Mike Eagleson, a lancé une pierre parfaite qui a poussé sa pierre encore plus proche du bouton pour vraiment s'assurer de la victoire. C'était vraiment un lancer sous pression extraordinaire. Et le Canada a remporté une médaille d'or en curling. Ça porte le total des médailles d'or pour le Canada à 3. Et il a été le porte-drapeau du Canada avec Nathalie Wilkey lors de la cérémonie d'ouverture. Et je vais vous parler, avez-vous déjà entendu parler du 1$ chanceux aux Jeux olympiques?
Oui, oui, j'avais entendu parler de ça.
Ouais, non, ça date de 2002, là, à Salt Lake City. Celui qui avait fait la glace pour les Jeux olympiques avait mis un 1$ au milieu de la patinoire. Et c'est la première fois que le Canada gagnait une médaille en hockey depuis plus de 60 ans. Même chose pour les femmes. Et Mike Eagleson, depuis qu'il participe aux Jeux paralympiques depuis 2014 à Sochi, un membre de sa famille lui donne 1$ qu'il apporte avec lui à tous les Jeux paralympiques. Et il avait caché cette pièce de 1$ proche de la glace où ils ont fait le match de la finale. Alors, on a retrouvé encore le 1$ chanceux qui a porté chance au Canada. C'est toujours des belles petites histoires comme ça qui sont le fun à savoir.
Ben oui, on aime ça, ces histoires-là. C'est qui sont nos héros cette année à ces Jeux?
Ben encore une fois, Mike Eagleson qui a été extraordinaire tout le long du tournoi de curling. Il avait des nerfs d'acier, ne s'était jamais dérangé par un mauvais lancer ou même un beau lancer. Des fois, on pouvait le voir sourire ou pointer le point en triomphe, mais ça a été très, 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 très rare. Et je voudrais aussi parler de Nathalie Wilkey qui a remporté 4 médailles, dont 2 d'or, et donc 3 médailles en biathlon, 1 en paraski de fond. Et je voudrais aussi souligner la performance de Kali Erickson en ski alpin avec sa guide Sierra Smith. Lui a aussi remporté 3 médailles. Alors, c'est une belle performance pour ces 3 Canadiens et ils seront peut-être à surveiller lors des prochains Jeux paralympiques qui vont avoir lieu dans les Alpes françaises.
Avant d'aller là, je vais te demander à toi personnellement, comment as-tu apprécié ces Jeux? Es-tu déçu? Comment tu te sens vis-à-vis ces Jeux cette année? Et surtout en tant qu'ancien athlète aussi, hein, faut le dire.
Oui, j'ai pas participé à des Jeux paralympiques d'hiver, ou jamais assisté non plus à des Jeux paralympiques d'hiver, mais je pense que c'est les Jeux où je l'ai plus regardé à la télé. Les compétitions de curling étaient vraiment, vraiment intéressantes. Je pense que aussi Radio-Canada, là, sur leur site Internet et à la télévision, ont quand même fait un bon travail. On se plaint toujours que on voit moins les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques. C'est normal, les Jeux paralympiques d'hiver sont beaucoup plus petits que les Jeux olympiques. Ça fait une grosse différence, là. Il y a à peu près une moyenne de 80 médailles d'or qui sont données aux Jeux paralympiques contre 120 pour les Jeux olympiques. Donc, ça fait une grosse différence. Et donc, il ne peut pas avoir de la couverture mur à mur, mais on a quand même vu des beaux exploits. Et puis, je pense que ça a attiré l'attention des gens qui peut-être regardaient pas le sport autant qu'avant. Et là, on peut être plus intéressés au sport paralympique.
Et maintenant, alors, en fait, moi, je vais quand même faire un petit commentaire. C'est la première année, moi aussi, que je regarde autant les Jeux paralympiques. C'était disponible sur tout.tv, puis on en voyait beaucoup. Et oui. J'avais besoin de voir parce que c'est pas des Jeux qu'on connaît autant que les Jeux olympiques avec les athlètes et tout ça. Et moi, je trouvais que j'ai appris beaucoup de choses. Et c'était un peu grâce à toi. Je me disais, je vais regarder. Là, il m'a parlé de ces affaires-là, je vais regarder. Puis franchement, c'est très émouvant. Émouvant quand... Ah oui, peu importe qui gagne, on est ému pour cette personne. Alors, je le dis là, je trouvais que c'était important de le souligner. Maintenant, Dominique, on va se retrouver dans 4 ans, donc dans les Alpes françaises.
Donc, oui, c'est ça. Ça risque d'être intéressant. Les Jeux vont être aussi éparpillés là, que ceux qui ont été à Milan, peut-être même un petit peu plus. Ça va s'étendre de Nice au sud jusqu'à Albertville au nord. Donc, ça risque d'être intéressant. Il y a peut-être aussi des nouveaux sports qui pourraient être rajoutés. On devrait voir le para-hockey féminin faire son entrée aux Jeux paralympiques. Ils doivent encore avoir des compétitions de championnat du monde pour voir si ce sport va être accepté. Et peut-être avoir des compétitions de bobsleigh aussi aux Jeux paralympiques pour participer aux Jeux paralympiques. Le sport doit être pratiqué par 12 nations sur 3 continents. On est probablement à 10. Donc, peut-être que ces 2 nouveaux sports pourraient être rajoutés. Ça rajouterait un peu de plus de compétition ou si ça permettrait à plus d'athlètes de participer. Donc, on se croise les doigts, ça va faire une grosse différence. Et l'autre chose qu'il va falloir étudier aussi pour les compétitions qu'il va y avoir dans les Alpes françaises et à Salt Lake City, là, 4 ans après, c'est les changements climatiques. Là. Peut-être devancer les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, là, parce que les conditions de neige lors des Jeux paralympiques là, de Cortina, là, il était vraiment difficile. Là. Il faisait plus de 20 degrés certains jours pour le ski alpin et pour le ski de fond. Donc, les athlètes ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter aux changements de température. Et les changements climatiques se continuent, ça risque encore d'être de plus en plus difficile d'avoir de la bonne neige pour les Jeux paralympiques. Donc, c'est des choses qu'on devra surveiller au cours des prochaines années.
Toujours intéressant, Dominique Tremblay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
À la prochaine.
Au revoir.
Se font la cour. Je vis au rythme des cuillères et des
Aïbécoise, une chanson de Rebecca Jean.
Et ça nous amène à parler à nouveau de cinéma à l'émission. Ça fait trois fois aujourd'hui, mais ça arrive comme ça. Le festival de films, du film Black en est à sa sixième édition à Ottawa. Et ça commence le 20 et ça va se terminer le 24 mars avec une programmation hybride et qui permet donc de faire vibrer la capitale. Et pour en parler, on reçoit Fabienne Collat, qui est une figure incontournable de la culture au Canada et qui est présidente et fondatrice du festival Film Black. Bienvenue, Mme Collat, à l'émission.
Ah, merci de m'accueillir. Bonjour, bonjour.
Oui, j'ai fait jouer cette chanson-là. Je pensais à vous. Je me disais, bon, je ne sais pas si elle a du sirop d'érable qui lui coule dans les veines ou quelque chose du genre, mais je sais que vous êtes très, très collé, si on peut utiliser le mot, à la culture ici. Et donc, ce festival souffle sa sixième bougie cette année avec une sélection impressionnante de 40 films. Alors, pouvez-vous un peu nous dire ce qui définit l'esprit de cette édition en 2026?
Mais permettez-moi de répondre à votre première question.
Ah oui.
Alors, j'ai beaucoup plus de temps que j'ai passé, que je vis au Québec, que le temps que j'ai passé à vivre en Haïti, bien que je suis la femme de deux îles, l'île de Montréal et l'île d'Haïti.
Tout à fait.
Non, je me sens 100% haïtienne, 100% québécoise, donc totalement. Donc, cette chanson me rejoint complètement. Puis de plus, vivre avec un Québécois, pur lait, nos yeux verts... on va être plus québécois que ça, là.
Excusez-moi pour la blague. J'avais besoin de faire la blague parce que je me sens que ça nous fait du bien de rigoler un petit peu. Et surtout dans la chanson, quand elle parle de la poutine aux pickles, moi, ça me fait rire à chaque fois.
Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. D'ailleurs, Rebecca Jean, qui est une artiste formidable de la relève et puis qui se confirme de plus en plus. Donc, merci de faire ce clin d'œil avec Rebecca Jean. Ça part bien le bal pour la sixième édition du Festival du Film Black d'Ottawa. Et que le temps passe vite, hein, parce que c'est hier matin là qu'on a lancé le festival la première année. Et puis là, on est déjà rendu à 6 ans. On l'a lancé en plein milieu de la pandémie. Et à l'époque, c'était un festival complètement en ligne, très modeste. Et aujourd'hui, 40 films de partout dans le monde, y compris évidemment des films canadiens. Donc, on est très gâtés, on est très contents et j'ai très, très hâte à vendredi pour le lancement du festival.
Alors, ce film, le coup d'envoi de ce festival, c'est le 20 mars avec la projection de L'été de Jania d'Olivier Meiz. Pourquoi avoir choisi ce film-là particulièrement?
Ben, en fait, j'ai aucun mérite d'avoir choisi ce film parce que c'est l'équipe de programmation chaque année là qui choisissent les chefs-d'œuvre qui doivent composer le festival. Donc, j'envoie un coup de chapeau à toute l'équipe de programmation dirigée par Joyce Fuerza. Alors, c'est un film, c'est une fiction d'ailleurs qui met des femmes en avant. Alors, je trouve que ça tombait très très bien parce qu'on est dans le mois des femmes, quoi. Mm-hmm. Et puis c'est l'histoire de Jaya et puis dans un centre de détention, psychologique, un asile en Belgique. Et puis, donc là, on va conjuguer tout son futur avec sa mère, avec qui elle doit vivre là-bas. Et puis, une nouvelle personne arrive et puis chamballe tout dans cette résidence-là. Et là, on va parler vraiment d'histoire, de résilience, de résistance, mais aussi de joie de vivre et puis de comment l'amour peut changer beaucoup de choses. Et puis, tout ça sous la trame... en fait, c'est pas un centre de détention, c'est plutôt un centre pour les demandeurs d'asile, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Et là, il y a... quand même cette inquiétude, qu'est-ce qui adviendra de leur statut, etc., est-ce qu'ils vont l'avoir et tout. Donc, ce qui est très d'actualité partout dans le monde en ce moment, hein, d'ailleurs avec tout plein de gens qui ont des statuts un peu fragilisés par toutes sortes de règlements, de règles, etc. Donc, je trouve que c'est pas mal ancré dans l'actualité.
Je voudrais vous amener sur un des volets majeurs du festival, c'est la série de courts-métrages « Être noir au Canada ». C'est quand même avec, je pense que ça fonctionne avec la Fondation Fabienne Collat. Est-ce que vous voyez, quelle sorte d'impact vous voyez là, que ce genre de volet ou ce genre de programme a sur les jeunes créateurs et les jeunes créatrices?
Alors, pour ceux qui connaissent moins cette série-là, ce programme-là, Être noir au Canada, c'est un programme d'abord de mentorat et d'accompagnement, mm-hmm. de formation pour des jeunes cinéastes pour pouvoir les aider à se lancer dans le milieu du cinéma de façon professionnelle. Donc, le programme les accompagne avec l'aide de professionnels ancrés dans le milieu à Ottawa. Parce qu'il y a Être noir à l'intérieur de Être noir au Canada, il y a Être noir à Ottawa, à Montréal, à Toronto, à Halifax, à Calgary, à Vancouver. Donc, c'est 6 villes canadiennes participantes. Et donc, ces jeunes-là sont formés. Ils apprennent les rouages de la création d'un premier court-métrage documentaire. Alors, ils font leur premier court-métrage documentaire grâce à ces professionnels-là. Et ces films-là sont ensuite montés et vont en post-production. Et là, c'est leur grande première à Ottawa ce week-end. Alors, il ne faut pas manquer ça parce que je dis souvent qu'on ne sait jamais si ce n'est pas les prochains Spike Lee, les prochains Ava DuVernay, les prochains Jennifer Holness. Donc, il faut être là pour voir leur début, pour ne pas attendre qu'ils aient un Oscar pour dire « Ah, on a gagné un Oscar et puis on est fiers, etc. » Non, on est fiers maintenant. Donc, il faut venir supporter la relève. Ils racontent l'histoire de qu'est-ce que ça veut dire pour eux être noir aujourd'hui au Canada ou à Ottawa. Et c'est leur réalité qui passe à travers la musique, à travers l'identité, à travers les arts, à travers toutes sortes de choses. Hein. Il y en a qui parlent de religion, il y en a qui parlent de d'identité, il y en a qui parlent de déplacement, il y en a qui parlent, comme je dis, de l'art, du sport. Donc, c'est vraiment éclectique comme sujet. Alors, c'est ma partie préférée du festival. Alors, j'espère que vraiment les gens vont venir apprécier, admirer ces jeunes pousses oui. et leur premier film.
Il y a le festival qui propose le Black Market. Je dois dire, en fait, je crois que je vais monter une question plus haut. C'est un festival qui est quand même bilingue. Hein? Il y a des films en anglais et en français. Alors, il faut quand même le spécifier que même si c'est à Ottawa, c'est bilingue. Hein? En fait, même
oh,
plus
oui,
que ça, parce
qu'il
y a des langues créoles aussi, j'imagine. Là?
Mais en fait, voici comment ça fonctionne. Le festival, la langue retenue pour le site web, par exemple, etc., c'est en anglais. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tous les sites, là, vous cliquez traduction, tout
ben
se
oui.
transforme dans la langue que vous voulez. Donc, c'est très simple. Par contre, dans les films, évidemment, eh bien, on a des films qui sont dans toutes les langues, parce que c'est des films qui viennent de partout sur la planète, mais toujours sous-titrés, au moins en anglais, quand c'est dans une autre langue. Oui, par exemple, le film d'ouverture est en français. Avec sous-titrage en anglais. Donc, venez avec vos collègues anglophones et puis vous, surtout, venez découvrir des films que vous ne voyez pas tous les jours sur vos écrans.
Tout à fait. Je reviens sur ce fameux Black Market qui offre des ateliers et des panels. C'est important ce genre d'espace de discussion professionnelle?
Oui, parce que nous, on voulait que le festival soit aussi un tremplin pour l'industrie. C'est vrai que c'est d'abord et avant tout pour augmenter l'appréciation du public pour les arts, pour les films, pour la cinématographie, pour que le public puisse aller à la rencontre de nouvelles façons de voir le monde à travers les yeux des cinéastes d'aujourd'hui, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Donc, on est très ancré public, mais on est très ancré industrie aussi. C'est un festival qui fait d'ailleurs le Black Market, qui est le coin où les gens de l'industrie se rencontrent pour discuter, pour bénéficier d'ateliers, etc. Et tout ça, pour l'instant, c'est encore gratuit. Alors, il faut en profiter. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement dans l'industrie, mais qui viennent quand même parce qu'ils ont un intérêt, ils se posent des questions, ils se demandent est-ce qu'ils se jettent à l'eau. Donc, c'est ouvert à tous pour cette série-là et tout se passe à la nouvelle scène.
Et il y a un festival qui est aussi en ligne et cette année, j'ai l'impression qu'on met beaucoup l'emphase sur les films plutôt canadiens, c'est ça?
Alors, on a un Spotlight canadien. C'est une série de 8 films canadiens qui ont fait le tour du Canada et partout ailleurs au monde. Et ce sont des films, dans beaucoup de cas, qui ont gagné des prix également et qui méritent l'attention des gens d'Ottawa qui les ont peut-être manqués. Alors, c'est la chance pour tout le monde de les découvrir, de partir à leur rencontre en ligne. Alors, c'est pour ça que le festival est hybride. Donc, hybride parce que il y a ces 8 films canadiens-là qui sont à découvrir, mais il y a aussi beaucoup d'autres films, comme la série Être noir au Canada, Être noir à Ottawa, est aussi en ligne, donc disponible sur la série en ligne du festival, et d'autres films également. Donc, c'est vraiment une chance incroyable de voir les films, même si vous ne pouvez pas faire le déplacement à Ottawa, même si vous habitez absolument très, très loin. Parce que je sais que votre émission vraiment déborde
partout au Canada,
d'Ottawa. Oui. C'est ça, exactement. Donc, tous les gens qui écoutent aujourd'hui et qui disent « Oh, c'est intéressant, mais dommage, je ne suis pas à Ottawa », eh bien, bonne nouvelle, ben, vous pouvez acheter votre billet pour la section en ligne du festival et vraiment dévorer ces films dans votre salon ou dans votre chambre avec votre meilleur pyjama, votre plus beau pyjama. Et puis, voilà, quoi.
Je dois quand même aller sur ce sujet-là parce que c'est important. Beaucoup de festivals, beaucoup d'organismes culturels au Canada souffrent de sous-financement. Comment ça se passe pour le festival?
Ah, mais c'est la même chose, c'est un combat de tous les instants. Nous sommes les premiers sur la ligne de front là qui souffrons de ce manque de financement-là, parce que quand on regarde le manque de financement des festivals en général, mais les festivals de la diversité souffrent encore plus, parce que nous, on était déjà sous-financés à la base. Alors imaginez maintenant, donc c'est très difficile. Alors c'est vraiment... parce qu'on a beaucoup de détermination, beaucoup de résilience et on fait ça avec beaucoup d'amour, qu'on garde ces festivals toujours vibrants, mais ce sont des festivals vraiment à un moment donné qui sont menacés, parce que si on ne peut pas avoir un financement à la hauteur de l'impact qui est donné, alors là, il y a un vrai problème. Donc, c'est un problème systémique, en fait. Donc, c'est un appel qu'on envoie aux bailleurs de fonds, mais aussi qu'on envoie au public qui nous garde en vie depuis le tout début, quoi.
Fabienne Collas, c'est un plaisir renouvelé de vous recevoir à Canal M, à l'émission Au quotidien. Je vous souhaite bon succès pour ce festival.
OttawaBlackFilm.com, et c'est là que vous allez pouvoir voir tout et enfin voir qu'est-ce qu'on offre et aussi vous procurer vos billets et vos passes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Fabienne. À la prochaine.
Au revoir.
Une grosse émission avec beaucoup, beaucoup d'invités, mais c'était tellement plaisant d'avoir toutes ces personnes nous jaser de leur passion. Moi, je vous rappelle qu'Hélène Denis sera de retour demain pour l'émission Au quotidien, mais moi, je suis de retour cet après-midi à 17h pour une autre édition de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Il sera entre autres question de l'épineux dossier de l'immigration et des réfugiés queer. Ben oui, on revient là-dessus parce que c'est vraiment pas facile avec la situation aussi au Sénégal. Et je reçois une entrevue avec plein de lumière avec Cynthia Woumaeu qui vient nous parler de l'importance de la diversité et comme allié aussi de la diversité sexuelle et de genre. Alors, on se retrouve à 17h et à la semaine prochaine au quotidien que j'anime le lundi. Merci à Mathieu Tessier d'avoir été là et à Hélène Denis qui m'a aidé à la recherche.